cours de philosophie critique par le père Marie-Dominique Philippe le 19 février 1992 à Saint-Jeudard.
Question pour la critique. Pourriez-vous rappeler, s'il vous plaît, les différences qu'il y a entre principe, axiome, corollaire? Quelle différence y a-t-il entre cause et principe, et entre principe et axiome? Très bien. Au dernier cours, vous nous avez montré que chaque partie de la philosophie avait plusieurs causes propres. Pouvez-vous expliciter? Ne doit-on pas dire que chaque partie de la philosophie comporte plusieurs causes, dont une propre? Par exemple, philosophie du travail, cause exemplaire, philosophie du vivant, cause efficiente, etc. Très bien. Bon, je vais rappeler quelque chose qui sont essentiels, auxquels on revient tout le temps. J'ai déjà dit, mais il faut labourer. Principe, cause. Alors, d'abord, le principe, ce qui est premier. Dans un ordre donné, ce au-delà de quoi je ne puis pas aller. Donc ce qui est premier et ce au-delà de quoi je ne puis aller. La recherche se termine au principe. Je découvre une source. Je ne peux pas remonter au-dessus de la source. Quand on cherche une source, on remonte. Puis tout d'un coup, on n'a plus de traces. On a fait ça quand on était gosse. On faisait de la philosophie en faisant ça. Chercher, plus rien après. Alors on se dit, c'est ça la source. Tout principe est une source. La cause, toute cause est principe d'un ordre donné. Tandis que tout principe n'est pas cause. Ben, tout de suite la grande différence. Le principe a une extension plus grande que la cause. Donc il peut y avoir des principes qui ne sont pas causes. Tandis qu'il ne peut pas y avoir deux causes qui ne sont pas principes. Donc la cause, elle aussi, ce qui est premier, dans un ordre donné. Mais la cause exprime ce qui est premier dans l'ordre de ce qui est dans l'ordre du devenir. Deux espèces de causes. La cause est toujours dans l'ordre existentiel, tandis que le principe peut être dans l'ordre purement intelligible. Ce qui est premier dans l'ordre de l'être est premier dans l'ordre de l'intelligible. Ce qui est premier dans l'ordre du devenir est premier aussi, mais dans un ordre de devenir qui est l'inverse au point de vue intelligible, on l'a vu tout à l'heure. Puisque l'être en acte est premier dans l'ordre de l'être, et l'être en puissance est premier dans l'ordre du devenir. Oui, l'ordre de ce qui est et l'ordre du devenir n'est pas le même, puisque ce qui est premier dans l'ordre du venir, ce qui est en puissance. Ce qui est premier dans l'ordre de l'être, ce qui est en acte. C'est intéressant à noter. Dans l'ordre de l'intelligibilité, ce qui est intelligible. Dans l'ordre de l'intelligibilité, ce qui est premier. Alors, je dis tout de suite, par exemple, le principe, ce qu'on appelle le principe de non-contradiction. Qu'Aristote dit un axiome. Tout axiome est premier dans l'ordre de l'intelligibilité. Donc tout axiome est principe, d'une certaine manière. Vous voyez que le principe de non-contradiction n'est pas une cause d'un axiome. C'est premier dans l'ordre de l'intelligibilité. Alors la question de savoir si tout principe dans l'ordre de l'intelligibilité est axiome. Ou peut-il y avoir des principes dans l'ordre de l'intelligibilité qui ne sont pas axiomes? Je crois que l'axiome est toujours premier dans l'ordre de l'intelligibilité. Mais il y a quand même une petite différence. Alors, je donne la petite différence en théologie. Vous allez tout de suite voir. En théologie, on dira que le Père, dans la très sainte Trinité, est premier et principe. Il n'est pas cause. Alors, le Père est principe du Fils. Il n'est pas cause du Fils. Donc, et on ne dira jamais que le Père est axiome du Fils. Il l'est au point de vue de notre intelligence, en sens que si le Père n'est pas, le Fils n'est pas. Donc il est présupposé. Condition sine qua non, comme axiome. Condition sine qua non. Alors il faut distinguer l'axiome du principe. Il y a des principes qui sont premiers dans un ordre donné. Le principe regarde un ordre. Il est mesure de cet ordre. Le principe est mesure de cet ordre. Il est premier dans un ordre donné. Alors ça, c'est le principe dans l'ordre de l'intelligibilité. Le Père est premier dans l'ordre de la très sainte Trinité. Il est premier dans un ordre réel, pas uniquement intelligible, dans un ordre réel. On peut être premier dans un ordre réel sans être cause, en étant uniquement mesure. Quand vous servez une mesure, la mesure devient principe d'intelligibilité. Et elle peut être principe aussi d'une façon, d'une intelligibilité qui implique quelque chose de réel. Le litre est mesure. Il est principe d'intelligibilité. Il n'est pas principe réel. C'est mon intelligence qui en fait un principe. Vous voyez, ça c'est délicat. Ce qui est sûr, c'est que le principe est toujours premier d'un ordre donné. ça lui dirait. Tandis que l'axiome n'est pas principe d'un ordre, il est condition sine qua non. Beaucoup plus. L'axiome est condition sine qua non. Il n'est pas mesure. C'est que principe est mesure de l'ordre.
Est-ce qu'on peut dire que le principe, il est plus du côté de l'intelligence et l'axiome plus du côté du raisonnement?
C'est plus par rapport à l'ordre qu'on doit le prendre, il me semble. C'est assez délicat, vous voyez. Entre principe et cause, c'est très facile. Toute cause implique un ordre de dépendance, de l'effet à la cause. Tandis que le principe n'implique pas nécessairement un ordre de dépendance. Il implique un ordre de dépendance dans l'ordre de l'être. Dans l'ordre du devenir. Il implique une primauté dans l'ordre de l'intelligibilité. Ça, c'est sûr. Premier dans l'ordre de l'intelligibilité. Et par le fait même, très souvent, mesure. Mais peut-être un axiome. Alors, il est premier de façon beaucoup plus négative. En ce sens que il est une condition sine qua non. Si cet axiome n'existait pas, il n'y aurait pas de... Je ne pourrais pas comprendre le reste. Oui.
J'ai du mal à voir qu'est-ce qu'il y a de plus entre pour la cause. Qu'est-ce qu'il y a de plus que le principe?
Parce qu'il y a un ordre de dépendance dans l'ordre de l'être. Ce qui dépend de la cause, c'est un effet. Qui dépend de la cause. En ce sens, qui provient de la cause. C'est pour ça que je dis dans la très sainte Trinité, nous ne disons pas que le Père est cause du Fils. Parce qu'il n'y a pas d'ordre de dépendance dans l'ordre essentiel. Mais nous disons que le Père est principe. Premier dans un ordre donné. Dans un ordre qui peut être purement intelligible. Tandis que la cause implique un ordre de dépendance. Oui. Et cet ordre de dépendance est où? Dans l'ordre de causalité efficiente, univoque ou équivoque. Dépend de la profondeur de la dépendance. Un maçon qui construit un mur. Ce mur est l'effet de son travail. Il est cause de ce travail. Mais, s'il meurt, est-ce que le mur va dégringoler? Est-il cause univoque ou cause analogique? S'il est cause univoque, il est cause uniquement du devenir, et le mur tient sans lui. Tandis que s'il était cause analogique, le mur, à sa mort, le mur tomberait. Parce qu'il serait cause de la forme du mur. Et donc, le mur dépendrait de lui. Mais la question toujours, quelqu'un qui a fondé quelque chose à sa mort, est-ce que ça va continuer ou pas continuer? Suivant qu'il est cause univoque ou cause analogique. C'est très très curieux. Un père de famille ou une mère de famille, est-elle cause univoque ou cause équivoque de ses enfants? Si l'enfant est tout petit, la mère de famille est cause analogique. Quand l'enfant a grandi, on peut sauver l'enfant, sa mère mourant. Mais quel est le lien de dépendance qui existe entre l'enfant et sa mère? Si l'enfant est tout petit, le lien de dépendance est un lien qui regarde une causalité analogique. Puisque la causalité porte sur la forme. et non pas uniquement sur le devenir. C'est des questions qu'on se pose tout le temps, ça. Et qui sont intéressantes, du reste, parce que ça montre les liens de dépendance. La primauté, le lien de dépendance. Oui. Tandis que le principe dit uniquement une primauté dans l'ordre de l'intelligibilité.
Quand on fait une induction, est-ce qu'on développe, par exemple, un principe qui n'est que principe, sans être cause ?
On découvre le principe et on peut découvrir aussi la cause. L'induction nous fait découvrir les causes. Oui. Mais il peut y avoir une sorte d'induction très particulière quand vous passez ce qu'on avait vu l'autre jour, blanc, blancheur, blancheur, et ce par quoi le blanc est blanc. Donc, blancheur, ce par quoi est donc principe. Cause, selon la forme. Pas cause efficiente, puisque la blancheur n'existe pas. Mais cause selon la forme du blanc. Donc, je passe de blanc à blancheur par une induction. Mais l'induction la plus élémentaire qui soit. Après toute une série où j'ai expérimenté le blanc du mur, le blanc de la neige, le blanc, ainsi de suite. J'ai induit blancheur, ce par quoi le blanc est blanc. Oui. C'est un principe, et c'est une cause selon la forme. Est-ce qu'il y a des difficultés là-dessus? Parce que il faut que ce soit très clair, ça. C'est des choses qu'on doit. Ça repose sur l'expérience, du reste. Hein. Parce que je vois des principes, je vois des causes, je vois des axiomes. C'est intéressant de voir quelle différence. Pourquoi a-t-on inventé axiomes, principes et causes? Oui.
Pour Blanchet, ce serait pas plutôt une inférence qu'une induction?
Une induction?
Ça va plutôt une inférence.
Mais toute induction implique une inférence. C'est une induction la plus simple qui soit. Une inférence, si elle aboutit à un principe, est une induction. Mais toute induction implique une inférence. Il y a un passage de l'expérience, ce qui est expérimenté, à la cause. Oui. Or, blancheur est cause selon la forme de blanc, ce par quoi le blanc est blanc. Dans le sens de l'intelligibilité. En réalité, c'est principe, si vous voulez, ce par quoi. Mais il peut y avoir une induction qui aboutit à un principe. Uniquement ce qui est premier dans l'ordre de l'intelligible.
Quand on emploie le mot source pour essayer de dire ce que c'est que ça.
Source, c'est métaphorique comme mot, vous comprenez. Je dis ça.
Est-ce que ça ne s'appliquerait pas plutôt à cause? Parce que le principe, est-ce qu'il est source pour l'intelligence? Est-ce qu'on peut dire que le principe est source pour l'intelligence? Et la cause
oui.
Est source dans la réalité?
Mais le principe dans l'ordre de l'intelligibilité est source. C'est pour ça que c'est bon. Ben tiens.
Mais pas pour la réalité.
Pas pour la réalité, dans l'ordre de l'intelligibilité. Et la cause est source dans l'ordre du réel. C'est premier. Une source, c'est ce qui est premier. Oui. C'est uniquement ce que je donnais. Ce qui est premier, ce au-delà de quoi je ne peux pas aller, la source. Mais c'est métaphorique, dans mon langage. Oui.
Toujours dans la métaphore, quelle différence y a-t-il entre source et fondement?
Le fondement n'est pas source. Hein, vous êtes bien d'accord? Le fondement, c'est une réalité qui est du côté matériel. La source est du côté plus efficience. Mais le fondement, c'est ce qui supporte tout. fondement n'est pas un principe. Mais au sens pur, c'est la cause matérielle qui supporte tout le reste. Le fondement, c'est ce qui porte tout le reste. Oui.
Au niveau de l'action, je touche à quelque chose qui est purement intelligible, qui fait comprendre la réalité, que j'applique à la réalité. Et au niveau du principe, je touche quelque chose qui est, comment dire, intelligible, mais est-ce que je touche quelque chose de réel également?
Quelque chose qui a un fondement dans le réel. Mais l'action aussi a un fondement dans le réel. Je suis d'accord avec vous, c'est que vous voulez montrer que... C'est pour ça que je dis, principe regarde un ordre. Vous voyez? Tandis que l'action ne regarde pas l'ordre. Et je crois que c'est la seule différence entre les deux. Parce que l'action est premier dans l'ordre de l'intelligibilité, et le principe est premier dans l'ordre de l'intelligibilité. Comme principe. Parce que si ce principe est cause, il est premier dans l'ordre réel. Oui. Et c'est pour ça que je dirais que l'axiome, c'est plus... Vous voyez, c'est la condition sine qua non. C'est pour ça que l'axiome, par exemple, de non-contradiction, est loi. C'est une loi. C'est la loi d'une intelligence saine. La loi n'est pas principe, elle est axiome. Mais la loi peut être principe. Elle ne l'est pas toujours. Qu'est-ce que c'est qu'une loi ? Une loi, c'est montrer le lien de nécessité entre antécédent et conséquent. Donc c'est une relation. Une relation nécessaire. Si, P, que. C'est uniquement ça, la loi. C'est un lien de nécessité. Si ceci doit arriver, il faut nécessairement poser ça avant. Donc un lien de nécessité entre quelque chose d'antérieur par rapport à quelque chose de postérieur. Donc c'est un ordre nécessaire que je donne dans la loi. Et la loi est de l'ordre de l'intelligibilité. La loi est d'une certaine manière un principe, comme l'axiome. Mais je dirais c'est plus. Il peut y avoir des lois qui sont comme les axiomes. Mais la différence entre l'axiome et la loi, ordinairement, c'est que l'axiome, on dira facilement, c'est un a priori. Tout axiome n'est pas un a priori. Et la loi est vérifiable. L'axiome est vérifiable aussi. En ce sens que si vous rejetez l'axiome de non-contradiction, vous pouvez dire n'importe quoi. Et donc, vous le vérifiez négativement. Oui.
Pour distinguer principe et axiome, est-ce que je peux dire que le principe n'existe que en relation avec l'ordre dont il est premier?
Oui, oui, oui.
Tandis que l'axiome, en tant que condition sine qua non, serait plus extérieure et ne dépendrait pas de cette...
Sûrement, ordre. Sûrement. C'est plus extérieur, l'axiome. C'est déjà beaucoup plus élaboré, c'est beaucoup plus formel. Oui. Parce que ça exprime uniquement une condition sine qua non. Pour que ma vie de l'intelligence existe, il faut l'action de non-contradiction. Si je supprime l'action de non-contradiction, vous voyez ce que dit Aristote à propos de l'action de non-contradiction. Si je supprime l'action de non-contradiction, je peux dire n'importe quoi, mon langage n'a plus de sens. Mais... Voilà. C'est quelques précisions. C'est pas toujours commode, hein. Axiome, principe, cause. Oui. Quoi ? Un corollaire. C'est quelque chose qui vient s'ajouter et qui est du côté de la conclusion. La conclusion, c'est ce qui est déduit à partir des principes. Et là, vous pouvez ajouter un corollaire. Vous n'ajoutez jamais de corollaire au principe. Vous ajoutez des corollaires aux conclusions. Notre bien-être, corollaire. Oui. C'est ou des cas particuliers, ou des voyages comme ça. Alors nous allons continuer notre recherche critique. Nous étions arrivés, vous voyez, à noter, et ça serait très intéressant à faire, à noter en philosophie toutes les causes qu'on se dit. Oui, alors, il y avait une petite question là, cause propre. Il n'y a qu'une cause propre et plusieurs causes propres. Il y a plusieurs causes propres. Parce qu'il peut y avoir une cause propre selon la matière, selon la forme, selon l'efficience, selon la finalité. La découverte des causes implique une notion analogique, donc une unité dans la diversité. Et les causes, la recherche des causes, de fait, se donne dans la diversité des quatre ou des cinq interrogations. Vous avez cinq causes propres. Cause selon la matière ou cause matérielle. Selon la forme. On dira aussi cause formelle. C'est la scolastique qui dira ça. Cause efficiente. Cause finale. Et cause exemplaire. Et à ces causes, vous pouvez découvrir le comment. Et le comment fait vous dire aux lois. Des lois plus ou moins universelles. Et quand la loi est très universelle, on arrive à des théories générales. Là, je suis dans une question d'ordre, antécédent et conséquent. Donc, le comment aboutit à une relation, alors que les causes sont toujours principes. Et le principe est premier, il est au-delà de la relation. Et c'est la très grande différence entre le principe, la saisie du principe et de la cause, c'est que je saisis quelque chose de premier. Tandis que la loi n'est jamais première. Vous pouvez remonter tout le temps plus loin. Alors vous parlerez d'une loi fondamentale. C'est une loi qui commande toute une série de lois. Une loi très universelle et fondamentale. Mais au fond, on peut découvrir quelque chose qui fera que cette loi fondamentale ne sera plus fondamentale. Puisque plus vous découvrez, plus vous relativisez, et plus ce qui était premier devient second. Vous découvrez un crâne humain. Il n'est pas inscrit sur les ossements. Ah non. Pas encore découvert ça. Alors vous découvrez, 20 ans après, un autre crâne qui paraît bien plus préhistorique. Celui-là qu'on considère comme plus ancien perd son ancienneté. Il devient un crâne second. C'est-à-dire qu'autrement, vous pouvez aller tout là. Ça, c'est la méthode. Oui, de réduction. Vous retournez tout le temps vers quelque chose de plus fondamental. Le fondement radical de tout. Alors vous ne le découvrirez jamais. Parce que vous ne saurez jamais savoir si vraiment vous avez découvert le premier crâne humain. C'est pas inscrit dessus. Je suis le premier crâne. peux jamais découvrir ça. Et vous découvrez, étant donné l'état de la science, voilà le crâne le plus ancien que je découvre. Étant donné certains repères. C'était très intéressant d'entendre Piveteau, qui était un homme remarquable, et comme le fils de Piveteau était à Fribourg, on en est de temps en temps, il venait de temps en temps faire des conférences sur le premier homme, autant qu'on peut le dire. Et Piveteau était un bon chrétien. Et Piveteau m'a dit, ce que j'aurais aimé, c'est qu'après cette conférence, un théologien puisse dire, voilà ce que la foi nous dit. Il n'y a pas de contradiction, mais ce n'est pas les mêmes regards. Et c'est intéressant parce que les gens croient que c'est le seul regard qu'on a. Adam fait partie de la foi. C'est pas un mot scientifique. Parce que vous ne découvrirez jamais le crâne d'Adam. Jamais. Et là, vous voyez bien ce que c'est qui est premier. Dans la foi, Adam est premier. Il est prince. Prince de l'humanité. Et Ève, princesse de l'humanité. Puisque l'humanité a commencé par Adam et Ève. Donc ils sont source. Mais seule la foi me le dit. Scientifiquement, je ne peux pas. Mais alors tous les équivoques qui vont là-dessus. Il faut accepter que la science ne découvrira jamais le premier dans l'ordre génétique. Jamais. Parce que je pourrais toujours. Vous voyez surtout. Le crâne d'Adam, c'est le crâne de celui qui a péché. Vous ne découvrez pas le crâne premier avant le péché. Tandis que le philosophe, le croyant, parle d'un premier Adam avant la faute et d'un second Adam après la faute, chassé du paradis terrestre. Or, si je ne fais pas cette distinction, je ne peux rien saisir au péché originel. C'est pour ça que pour un pur savant, le péché originel est toujours source de scandale. Parce qu'il ne saisit pas le premier comme princeps, comme source. Et c'est là où c'est très important de bien distinguer les premiers. Donc, voyez, en philosophie, je vais donc découvrir en philosophie pratique quelle est la cause selon la matière, selon la forme, selon l'efficience, selon la finalité. Première philosophie pratique, philosophie du travail, philosophie de l'art, de l'activité artistique. Alors je peux me poser la question, quelle est la cause selon la matière de l'activité artistique. Puisque tout travail est un travail sur une matière. Donc, la cause selon la matière, c'est ce qui est antérieur au travail. Et ce sur quoi j'élabore mon travail. Mais c'est très indéterminé la matière, par définition, la cause matérielle. Quelle est la cause matérielle du dentiste? Là, par expérience, vous le savez. Quelle est la cause matérielle du dentiste? Une dent creuse. Puisque une dent qui n'est pas creuse, qui n'est pas gâtée, c'est pas la matière du dentiste. Il la respecte. Et la cause matérielle, c'est une matière vivante. Ça peut être une matière vivante. Si la matière est morte, Adam est morte. Qu'est-ce qu'il fait? Il l'enlève. Donc il ne travaille pas dessus. c'est une matière vivante. Bah, évidemment, c'est pas ça la matière de tout travail. Je ne travaille que sur une norme, que sur une matière vivante. Oui, chaque art a sa matière propre. Et donc, découvre la cause matérielle de chaque art. Quelle est la cause matérielle du charpentier? Quelle est la cause matérielle de l'ébéniste? Quelle est la cause matérielle du sculpteur? Ainsi de suite, vous voyez. La cause matérielle peut, elle conditionne. Est-ce qu'elle détermine? Moi, je travaille sur le fer. Je travaille dans le fer. Comme vous pouvez distinguer, point de vue entreprise industrielle, ceux qui travaillent sur le velours, sur la soie, les soyeux de Lyon, ceux qui travaillent dans les draps, et ainsi de suite. Oui. La matière va déterminer, c'est très curieux du reste, va déterminer les différents travaux du côté artisanal. C'est vrai que le dentiste, comment vous déterminez le dentiste? Ben, il travaille sur les dents pourries. Il ne travaille pas sur les dents qui vont bien. Et il essaie, vous voyez, puisque ça peut être un dentiste chrétien. Alors, il anticipe la gloire. Faire des dents qui ne se corrompent plus. Purement artificiel, vous voyez. Cause matérielle. Quelle est la cause formelle? C'est la cause formelle. Elle m'est donnée la détermination que l'artiste, que le travailleur prend. Le point de broderie, le point de dentelle devant des hommes, ceux qui font la dentelle, et vous expliqueront tous les points différents. Qui font que la dentelle n'est pas la même en raison de ce point de dentelle particulier. C'est la forme. La même matière, c'est facile, la dentelle. Elle fait des trous. Et la forme, c'est la manière dont on relie ces trous. Relations différentes. C'est ce que le gosse dira quand il regarde dans la dentelle. Il fait des trous. Et alors la cause formelle et la cause matérielle se tiennent très fort. C'est au fond les deux qui se déterminent. La cause efficiente, propre, c'est celui qui a une idée. Il travaille en ayant une idée qu'il a. Donc c'est l'idée. Qui est cause, forme, cause efficiente et cause exemplaire. Mais elle détermine la cause efficiente. Et la cause finale, c'est l'œuvre. L'œuvre réalisée. Donc, vous voyez bien, ces causalités se tiennent ensemble. Parce que jamais la cause matérielle n'existe seule. Jamais la cause formelle n'existe seule. Jamais la cause exemplaire existe seule. Elles se tiennent les unes aux autres dans une espèce d'ordre. Alors c'est très vrai, et je comprends très bien la question posée tout à l'heure. Il y a parmi ces causes propres, il y a un ordre. Il y en a une première. Dans l'ordre artistique et dans l'ordre du travail, la cause exemplaire joue un rôle capital. C'est l'idéal. joue un rôle capital. Et d'une certaine manière, toutes les autres sont relatives à ça, puisque la cause finale dépend de la cause exemplaire. La cause efficiente est déterminée par la cause exemplaire. La cause, la forme provient de la cause exemplaire. Et la matière, je choisis cette matière en raison de la cause exemplaire. Alors vous pourriez ajouter des causes instrumentales du côté efficience. Il y a des causes instrumentales qui viennent s'ajouter. Donc vous voyez que le domaine des causalités propres sont très vastes. Mais il y a quelques causalités propres qui reviennent toujours. Thank you.